quelques versets dans l'évangile de Jean, au chapitre 16 de l'évangile de Jean, au verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les supporter maintenant. Mais quand celui-là, l'Esprit de vérité, sera venu, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses qui vont arriver. Celui-là me glorifiera, car il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Le Seigneur Jésus avait vécu, donc semble-t-il, plus de 3 ans avec ses disciples. Il les avait enseignés. Lorsqu'il parlait aux foules en parabole, selon qu'elles pouvaient l'entendre, il interprétait tout dans le particulier à ses disciples. Et dans ces chapitres de l'évangile de Jean, auquel a été fait allusion cet après-midi, tout spécialement, du chapitre 13 au chapitre 17, nous avons ces derniers enseignements, ces dernières paroles du Seigneur. On a comparé l'évangile de Jean, dans une mesure, au tabernacle, les premiers 12 chapitres correspondant au parvis. À l'entrée du parvis, il y avait l'autel d'airain, c'est la croix, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Au chapitre 13, le Seigneur lave les pieds des disciples, comme les sacrificateurs devaient se laver les pieds, les mains, la cuve d'airain, avant d'entrer dans le sanctuaire. Et au chapitre 16, le Seigneur, en quelque sorte, entre avec ses disciples dans le sanctuaire. Il y avait le chandelier, il y avait la table des pains, il y avait l'autel d'or, et la lumière venait du chandelier, type de Christ, mais l'huile, c'était le Saint-Esprit. Et voilà cette parole assez étrange du Seigneur, de dire à ses disciples, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Vous ne pouvez pas les supporter maintenant. » Comme si le Seigneur avait sur son cœur bien des choses qu'il voulait encore enseigner à ses disciples. Mais quand celui-là, l'Esprit de vérité, sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Et nous savons par l'Évangile que l'Esprit n'était pas encore parce que Jésus n'avait pas été glorifié. Quand Jésus a été élevé dans le ciel, alors, il a envoyé de la part du Père l'Esprit Saint. Nous avons cela dans le 2e chapitre des Actes, à la Pentecôte. Mais qu'est-ce que le Seigneur Jésus n'avait pas révélé à ses disciples et qui était pourtant tout spécialement sur son cœur? Nous avons exprimé dans notre cantique « Maintenant le bruit des flots qui passaient sur ta tête, toutes les souffrances » de la croix qui nous a occupés, entre autres, ce matin ici. Elles sont passées. Le bruit des flots qui passaient sur ta tête a fait place au divin repos de ton œuvre parfaite. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais il fallait que l'œuvre parfaite soit accomplie. Et notre 2e strophe, chantée autour de toi, t'es racheté. Encore sur cette terre savoure les félicités de la maison du Père. Quand est-ce que les rachetés sont autour du Seigneur? Bien sûr, nous nous réunissons autour de lui, à son nom, sous divers aspects. Et pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus y a fait allusion, mais n'a pas parlé de l'assemblée comme telle? Il a fallu la révélation donnée à l'apôtre Paul, pour que sa pensée, la pensée de Dieu, quant à cette assemblée, Christ a aimé l'assemblée, s'est donné lui-même pour elle, que cette révélation attende. Le Seigneur Jésus aurait pu en parler, il savait tout. Mais le moment n'était pas encore venu. Cependant, dans l'Évangile, cela nous a frappé un certain temps, Le Seigneur Jésus y fait allusion sous quelques formes différentes. Bien sûr, les âmes sont amenées individuellement au Seigneur. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Mais c'est quiconque, c'est pas une foule qui vient. C'est un à un, c'est ce qui caractérise l'évangile de Jean. Cela commence par Nicodème. Il vous faut être né de nouveau. Puis c'est la femme samaritaine dont on a parlé dans la prière. Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te parle. Puis c'est le paralytique de Bethesda. Puis c'est l'aveugle né. Et d'autres ont été amenés personnellement au Seigneur lui-même. Mais le Seigneur voulait rassembler. Il nous est dit dans cet évangile, Jésus allait mourir pour rassembler en un les enfants de Dieu dispersés. Et voilà, dans ce propre évangile de Jean, au chapitre 10, que nous connaissons si bien, nous avons d'abord une brebis, des brebis qui viennent au Seigneur. Nous lisons par exemple au verset 9, « Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera, il sortira, il trouvera de la pâture. » C'est individuel. Le berger cherche sa brebis dans l'évangile de Luc, n'est-ce pas, au cœur de l'évangile, au chapitre 15. Et le berger cherche sa brebis égarée jusqu'à ce qu'il l'ait trouvée. Alors le Seigneur a déployé cela. Tout son amour pour une brebis, mais pour l'amener où? Sans doute pour finir dans la maison du Père. Mais en attendant, quand le berger revient avec la brebis sur ses épaules, il retrouve les 99 qui ne se sont pas égarés, il retrouve le troupeau. Et alors il le dit ici, sous une certaine forme. Au verset 14, « Moi je suis le bon berger, et je connais les miens, je suis connu des miens. » Et puis plus loin, j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Il faut que je les amène elles aussi. Et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Voilà la première, si l'on peut dire, allusion à ce que le Seigneur voulait faire, réunir les siens. Au chapitre 9, l'aveugle né, pour finir, est dehors. Il a rendu témoignage, nous connaissons le récit, puis ils l'ont chassé dehors à la fin du verset 34. Jésus apprit qu'il l'avait chassé dehors, l'ayant trouvé, il lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Il répondit, « Et dit, qui est-il, Seigneur ? Afin que je croie en lui, Jésus lui dit, « Et tu l'as vu ? Est-ce lui qui te parle ? C'est lui. » Et il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il lui rendit hommage. Voilà une brebis qui est amenée. Mais le Seigneur voulait un troupeau. Dans un troupeau, ce n'est pas une bergerie, comme au début du chapitre 10. La bergerie du premier paragraphe, c'était les Juifs. Un enclos, et les brebis sont maintenues ensemble par la muraille de l'enclos, ou par l'édifice qu'est la bergerie. Elles peuvent sortir, mais le berger les fait rentrer. Elles n'ont pas de liberté. Les Juifs étaient, peuple de Dieu certainement, mais quand même, entourés des observances de la loi et de toutes celles qu'ils avaient ajoutées. Le Seigneur fait sortir les siens, mais il veut les réunir. Et alors, il va devant, il les réunit, mais j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. C'est une allusion à tous ceux des nations qui seront amenés. Et alors il y aura un seul troupeau et un seul berger, Juifs et nations. Bien sûr, c'est l'apôtre Paul qui va développer cette pensée que Juifs et nations feront partie de l'assemblée de Dieu. Un seul troupeau, un seul berger. Mais dans un troupeau, comment est-ce que les brebis sont maintenues ensemble? Il n'y a pas d'enclos, il n'y a pas de barrière. C'est parce que le berger est au centre. Les brebis, tout naturellement, se rapprochent et se réunissent autour du berger. Et plus elles seront près du berger, plus elles seront près les unes des autres. C'est une figure, mais qui nous aide à comprendre que le Seigneur Jésus a employé sans aller plus loin. Il fallait que la révélation soit faite à l'apôtre Paul pour que ceux qui n'étaient pas de cette bergerie soient amenés ensemble. Alors le Seigneur, le berger, donne sa vie. Il la donne de lui-même, personne ne la lui ôte. Mais les brebis restent, chacune une brebis, gardent leur individualité, même si elles sont attirées autour d'un centre. Nous avons ici chanté ce matin ce cantique, « Ta famille est réunie, ô Père, sous ton regard, en ton Fils tu l'as béni. » Dans les écrits de l'apôtre Jean, c'est la pensée de la famille qui prévaut. Bien sûr, chacun est amené individuellement au Seigneur, spécialement dans cet évangile. Mais dès le premier chapitre, nous lisons ceci. Au premier chapitre, au verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, donc Christ, il leur a donné le droit d'être enfants de Dieu. Savoir à ceux qui croient en son nom, lesquels sont nés, non pas de sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Enfants de Dieu. Pour former une famille. Une famille qui, bien sûr, dont tous les membres auront le même père. Et dans aucun autre évangile, le Seigneur Jésus ne parle du Père, comme dans l'évangile de Jean. C'est mon Père en général. Mon Père qui me les a donnés est plus puissant que tous. Ou le Père lui-même vous aime, enfant de Dieu. Nous disons ces mots très facilement, sans réaliser ce que cela veut vraiment dire. Dans son épître, alors, Jean sera conduit à dire « Voyez de quel amour le Père nous a fait don que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Mais le Seigneur parle du Père. À la fin, tout à la fin de ces chapitres, 14 à 17, « Le Père lui-même vous aime. Je leur ai fait connaître ton nom, le nom du Père, et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et moi en eux. L'amour dont tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père, tu m'as aimé avant la fondation du monde. Relation éternelle du Père et du Fils, amour insondable pour nous. Le Père aime le Fils. Sous diverses formes, cela est répété donc sept fois dans l'évangile de Jean. Tu les as aimés comme tu m'as aimé. Mais je les ai aimés comme tu m'as aimé. Amour du Père, amour du Fils. Et alors, aimez-vous les uns les autres, parce que les rachetés forment une famille. Seulement pour que le Père soit pleinement révélé, il fallait la résurrection. Il fallait la croix, il fallait la résurrection. Et alors vient le message donné à Marie au chapitre 20. Va vers mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père. Vers mon Dieu et votre Dieu. Va vers mes frères. Avant, il a dit, je ne vous appelle plus esclaves, je vous ai appelé amis. chapitre 15. Parce que je vous ai révélé tout ce que j'ai entendu de mon père. Un ami révèle ses secrets à son ami. Mais il y avait plus que cela. Il y avait l'amour du père. Tu les as aimés comme tu m'as aimé. Amour éternel du Père pour le Fils, amour qui descend vers les rachetés et qui forme cette famille de Dieu. Frère, mes frères, j'annoncerai ton nom à mes frères, avait déjà dit le psaume, mais cela est repris, n'est-ce pas, dans l'épître aux Hébreux, dans le sens beaucoup plus large des frères juifs et nations. Le Seigneur Jésus ne va pas plus loin, n'est-ce pas? Cette famille, et nous faisons tous les rachetés du Seigneur, faisons partie de cette famille, tous les enfants de Dieu, rassemblés en un les enfants de Dieu. Jésus allait mourir pour rassembler en un les enfants de Dieu. Le troupeau, la famille. Puis le Seigneur va indiquer encore autre chose, où l'on sent en quelque sorte la joie qu'il attendait au-delà de son œuvre. Le berger se réjouit quand il a trouvé sa brebis. Le Seigneur ressuscité, en quelque sorte, donne à Marie le message qui est sur son cœur, va vers mes frères. C'est pas seulement mes amis, c'est mes frères. Je monte vers mon Père et votre Père. Le Seigneur ne dit pas « je monte vers notre Père ». Bien sûr, nous sommes introduits dans la même relation, mais il reste premier-né entre plusieurs frères. Mon Père et votre Père, mon Dieu et votre Dieu. Mais alors, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 16, le Seigneur Jésus interroge ses disciples. Au milieu du verset 13, Matthieu 16, 13, « Qui disent les hommes que je suis ? Moi, le Fils de l'homme. » Et ils dirent, les uns disent Jean le baptiseur, les autres Élie et d'autres Jérémie, l'un des prophètes. Et il leur dit, « Et vous, qui dites-vous que je suis ? Vous qui avez été avec moi, puis peut-être une année ou un peu plus. Vous, qui dites-vous que je suis ? » Et la question est la même aujourd'hui, n'est-ce pas ? Toi, qui dis-tu que Jésus est ? Alors, un musulman dira « Jésus est un prophète ». Un juif dira « c'est un imposteur, ce n'est pas le Christ ». Pierre répond. Et nous connaissons bien sûr ce texte par cœur. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Quelle réponse pour le Seigneur. Il allait donner sa vie pour Pierre, pour chacun de ses disciples, pour chacun de nous, pour sauver, mais aussi pour rassembler. Alors il va dire cette parole que bien sûr les disciples n'ont pas comprise à l'époque. Tu es bienheureux, Simon Barjonas. La chair et le sang ne t'ont pas révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux, mon Père te l'a révélé, que je suis le Christ, le Fils de Dieu. Sur ce roc, sur cette révélation, sur Christ, Fils de Dieu, je bâtirai mon assemblée, et les portes du Hadès ne prévaudront pas contre elle. Pour la première fois, il dit mon assemblée. Dans Jean, il a parlé du troupeau, il a impliqué la famille. Mais ici, il dit « mon assemblée ». On peut penser au sentiment profond de joie avec lequel le Seigneur peut dire cela. « Je bâtirai mon assemblée. Je vais rassembler en un seul édifice, en quelque sorte, tous ceux pour qui je vais donner ma vie. Je bâtirai mon assemblée. » Elle est comparée à un édifice, n'est-ce pas ? Mais il ne va pas plus loin. Il faudra l'épître aux Éphésiens, et d'autres épîtres, et d'autres passages, dans les Corinthiens, pour nous montrer cet édifice. Dans les Éphésiens, ce temple qui croit, auquel s'ajoute pierre sur pierre. Cette habitation de Dieu par l'Esprit, l'ensemble des rachetés à une époque donnée, le temple qui croît, c'est l'ensemble de tous les rachetés de la grâce qui forment la maison de Dieu, le temple. Alors Pierre, tout spécialement, va en parler en détail, de pierres vivantes qui sont posées sur le fondement. Et Paul dit, j'ai posé un seul fondement, lequel est le Christ. Les disciples ne se sont pas trompés, c'est pas Pierre qui est le fondement. Pierre le dit lui-même, n'est-ce pas, que Christ est la pierre angulaire. Mais ce temple va s'élever, et l'assemblée est comparée à ce temple, à cet édifice qui est maison de Dieu. L'Éternel avait habité dans le tabernacle sous la forme de la nuée. Puis dans le temple de Salomon, la nuée y est venue, et l'on ne pouvait pas entrer dans le temple, quand la nuée y était là. Puis Dieu était en Christ. Mais dans le temple des Épîtres, c'est la maison de Dieu, et le centre, c'est Christ. Et chacun des rachetés est une pierre de cet édifice. Tout cela, le Seigneur le savait, mais ce n'est pas le moment de le révéler. Ce sera donné quand l'Esprit sera venu. Beaucoup d'autres choses étaient réservées au ministère de l'Esprit. Il vous conduira dans toute la vérité, mais tout particulièrement ces diverses figures relatives à l'Assemblée. Et alors la figure, si on peut dire, la plus essentielle, Seigneur Jésus n'en a pas parlé, le corps de Christ. Il a fallu vraiment la révélation faite à l'apôtre Paul que tous les croyants formeraient un seul corps. Et le corps, c'est un organisme. Ce n'est pas une organisation. Beaucoup de vrais croyants forment une organisation, décident de se réunir parce qu'ils ont les mêmes pensées, ils sont au Seigneur, et c'est heureux. Mais ce n'est pas la pensée du Seigneur, la pensée révélée dans les Épîtres. L'ensemble des croyants est un corps, et les membres du corps sont unis les uns aux autres vitalement. Les pierres sont ajoutées les unes aux autres, par les moyens que le Seigneur emploie. Mais enfin, ça reste des pierres. Le corps est un organisme vivant, et c'est comme membres de ce corps que nous pouvons nous réunir autour du Seigneur. N'entrons pas plus loin là-dedans, c'est sûr, c'est l'enseignement des Épîtres. Mais dans cet évangile de Matthieu, le Seigneur va dire une chose de plus au chapitre 18, ce verset que nous connaissons et citons si souvent. Au verset 20, là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis là au milieu d'eux. Là où deux ou trois se sont assemblés à mon nom, pas du tout. Ils sont assemblés, c'est un passif. Ce n'est pas eux qui ont décidé de se rassembler. Beaucoup de congrégations se forment par décision ou par commune déclaration, n'est-ce pas? On signe une confession de foi et on reconnaît diverses vérités essentielles. Mais ce n'est pas ça. Là où deux ou trois sont assemblés. Exactement, ça veut dire « sont ayant été amenés ensemble ». Le mot « assemblée » n'a rien à voir avec le mot « assemblée ». Et c'est la pensée qu'ils ont été amenés ensemble et dans quelle direction, dans quel but, à mon nom. C'est une direction, n'est-ce pas? C'est une préposition avec l'accusatif de direction. C'est le nom du Seigneur qui rassemble. C'est vers lui qu'on a été amenés ensemble. C'est une autre expression lorsque le Seigneur parle de prier en son nom. C'est comme si lui signait la prière, c'est tout autre chose. Mais ils sont assemblés à mon nom. Qui est-ce qui les a amenés ensemble? Dans un sens, c'est le Seigneur. Il est mort pour rassembler en un les enfants de Dieu dispersés. Mais 1 Corinthiens 12 précise la chose. 1 Corinthiens 12 Verset 13. nous avons tous été baptisés d'un seul esprit pour être un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit homme libre. Tous baptisés d'un seul esprit pour être un seul corps. C'est le Saint-Esprit qui a formé le corps. C'est un résultat de l'œuvre du Seigneur, bien sûr. Chaque racheté est une brebis du troupeau. Chaque racheté est une pierre vivante de l'édifice. Chaque racheté est un enfant de la famille de Dieu. Et chaque racheté qui a reçu le Saint-Esprit, ayant cru, vous avez été scellé du Saint-Esprit, est un membre de ce corps. C'est le Saint-Esprit qui a formé. Ils sont amenés ensemble. Le Seigneur ne développe pas la pensée. Ce n'était pas à lui, c'était à l'Esprit, par l'apôtre Paul, de développer la pensée. Mais chaque membre, chaque croyant fait partie de ce corps. Et alors, ayant été amenés ensemble, sous-entendu par le Saint-Esprit, mais au nom du Seigneur, vers le Seigneur, qui est lui-même le centre de rassemblement. Pourquoi est-ce que bien des enfants de Dieu, très sincères, très vivants, ont de la peine à saisir cela? On l'explique, on tâche de leur expliquer, mais il faut vraiment que l'Esprit de Dieu le fasse comprendre. Et alors on se réunit au nom du Seigneur, vers le nom du Seigneur, non pas par décision, non pas parce qu'on est d'accord sur divers points, mais vraiment par l'œuvre de l'Esprit. Et alors, nous rendons culte par l'Esprit de Dieu, Philippiens 3, nous prions par l'Esprit de Dieu, nous chantons par l'Esprit. L'Esprit agit, même dans un rassemblement local, sur cette base de membres du corps de Christ, et produit la louange, produit l'édification, conduit à la prière. Et c'est quelque chose de merveilleux. Et le Seigneur Jésus, oui, ce n'était pas à lui de le révéler, mais on sent, là où deux ou trois sont assemblés, sont ayant été amenés ensemble, à mon nom, je suis là au milieu d'eux. C'est une promesse du Seigneur. Des amis nous disent, les jeunes ou plus âgés, je ne sens pas la présence du Seigneur dans le culte. Alors il n'est pas là. Pas du tout. Si on est vraiment réunis au nom du Seigneur, nous devons croire à sa promesse. Si nous nous réunissons selon la parole, en reconnaissant les divers enseignements que les épîtres nous donnent, n'est-ce pas? Nous pouvons croire à sa promesse. Je suis là, au milieu d'eux. Si tu ne le ressens pas, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose en toi qui n'est pas en règle. Tu es bien un enfant de Dieu, tu es bien une brebis du troupeau, mais il y a des obstacles à ce que l'Esprit te fasse sentir la présence du Seigneur. Puis ce n'est pas une question sentimentale, c'est l'Esprit de Dieu qui fait éprouver la présence du Seigneur. Le corps est uni à la tête, n'est-ce pas? Cela nous est bien développé dans les Épîtres. Et voilà. Le Seigneur a parlé de ces quatre aspects des enfants de Dieu rassemblés, famille, brebis d'un seul troupeau, pierre d'un seul édifice qui va croissant et membre du corps de Christ. Il est dit aux Corinthiens, non pas vous êtes le corps de Christ, l'article n'est pas dans l'original, vous êtes corps de Christ, vous assemblée de Corinthe, les croyants, naturellement, vous êtes corps de Christ. En quelque sorte, vous faites partie de l'ensemble. Et il y a plusieurs membres, chaque membre a sa fonction. On ne doit pas dire, l'œil ne doit pas dire au pied ou à la main, j'ai pas besoin de toi. Ou l'oreille n'a pas à dire à l'œil, oh, je ne suis qu'une oreille, je ne vaux rien. Chacun, suivant que chacun de vous a reçu quelques dons de grâce, employez-le les uns pour les autres. Mais nous voulions simplement souligner ce que le Seigneur Jésus avait sur son cœur. En quelque sorte, c'est une partie de cette joie qui était devant lui, qui a fait endurer la croix et mépriser la honte. Les rachetés qui seraient sauvés par son œuvre, ceux pour lesquels il allait mourir, mais aussi pour rassembler les enfants de Dieu dispersés. Et c'est ce qui fait la valeur, n'est-ce pas, d'un rassemblement basé sur cette pensée qu'on est membre du corps de Christ, pas d'une organisation, mais rassemblé, amené ensemble par l'Esprit au nom du Seigneur, vers le nom du Seigneur, et qu'il est le centre pour nos affections, pour nous diriger par son Esprit, et bien sûr le Seigneur, le chef auquel nous avons à obéir.